des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Vous êtes de retour à Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3, première de l'année. Gabriel Tremblay en compagnie de Jonathan Paradis. Comment ça va, Joe?
Salut!
Yeah!
We're back!
We're back! Écoute, it's about you and me tonight.
Are we
Jonathan?
Going in English this time?
Non, mais on est tous les deux aujourd'hui à l'émission. J'ai dit ce soir, mais quoi? Il est 14h30. On prend une nouvelle plage horaire d'ailleurs cette année. Donc 14h30 à 15h30 pour le mardi. Ce sera toujours nous, l'équipe du mardi à Conduite Antisportive. Ouais. C'est pour plaire, pour accommoder Pierre-Alexandre Tremblay qui malheureusement ne peut même pas être là aujourd'hui à l'émission. Donc, question de quoi? Question sanitaire. PA vient de contacter quelqu'un, puis là, il y a peut-être un test. Bref. Hein, on le laisse chez eux, PA. Reviens-nous en force, sans microbes d'ici quelques temps.
Tout propre.
Yes, tout propre.
Avec des bonnes nouvelles en plus. On vient tout juste d'apprendre des bonnes nouvelles.
Oui,
enfin,
ben oui.
Pour les restaurants.
Conférence de presse, point de presse, là, qui est encore actif en ce moment. Donc, écoutez ça d'une oreille, puis écoutez-nous de l'autre.
Il n'y a pas terminé encore.
Je ne sais pas.
Ça commence à 2h. Tourner autour du pot, là, voilà.
Ouais, c'est ça. Exactement. Yes. Joe, on a quand même un programme chargé parce que, écoute, on a fait une émission, quoi, la dernière, c'était en décembre, à la mi-décembre, peut-être. Ça fait un bon bout de temps qu'on a arrêté tout ça. On a fait une revue de l'année, une grosse rétrospective juste avant la pause du temps des fêtes. Et depuis ce temps-là, dans le monde du sport, autant au niveau du hockey, c'est sûr que le baseball en ce moment, c'est assez tranquille. Par contre, il y a Cooperstown, là, d'ailleurs, avec les joueurs intronisés au Temple de la Renommée. Mais ça, ce sera PA la semaine prochaine.
On trouve toujours
le moyen de parler de baseball. Sinon, le hockey, il y a plusieurs cas de COVID encore en ce moment, mais ça commence à revenir à la normale, il y a le Australian Open au tennis, dont on va parler un petit peu plus tard aussi. Donc, le premier grand chelem de la saison de tennis. On va parler de foot aussi. Je vais parler de la Coupe d'Afrique des Nations, compétition internationale de ballon rond. Donc, plusieurs surprises en ce moment. Donc, c'est assez trippant à suivre, même si c'est à des heures qui n'ont pas de bon sens. C'est souvent comme les matchs à 11h, midi ou en début d'après-midi.
Tennis aussi, je crois.
Ouais.
C'est assez tardif.
Tardif, tu dis. Ouais, les matchs commencent à 22-23h. Donc, pour les Nightbirds, pour les oiseaux de nuit d'entre vous, c'est un rendez-vous, mais oui, effectivement.
Comme les matchs canadiens très tard, même en cette mi-saison boiteuse un peu, on va en parler aussi un peu plus tard, là, la dégelé de hier. Ouch.
Ouais, c'était pas... C'était pas chic. Ouch. Contre le Wild du Minnesota. Et justement, parce qu'on va parler de hockey au retour de la pause musicale, allons-y avec Antonioni et la toune Puck sur les ondes de Schiss 94.3. Vous écoutez Conduite Antisportive. Vous êtes de retour à Conduite Antisportive. C'était Antonioni, la pièce Puck. Puck, parce qu'on va parler de hockey. Hein? Vous faites des liens.
Yeah. Écoute,
un plus un. Jonathan, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière émission de CAS. Dans le monde du hockey, dans la Ligue nationale particulièrement, il y a eu plein aussi de développements par rapport aux Jeux olympiques. Donc, les joueurs de la Ligue nationale n'iront pas. Donc, c'est ce que Gary Bettman a annoncé. Ouais, à contre-cœur.
On a eu l'alignement, par exemple, qui est sorti. J'ai pas eu le temps vraiment de le regarder au complet, mais je crois que sans le vouloir, ils ont relâché tout l'alignement, puis les journalistes ont sauté là-dessus.
Ça a été leaké, comme on dit en bon français.
Mais c'est une question de minutes, secondes, mais assez longtemps pour.
Ouais, exact. Mais c'est pas ça, notre sujet aujourd'hui principal. C'est la nomination d'Émilie Castonguay comme directrice adjointe au directeur gérant des Canucks de Vancouver.
Ben oui.
Au GM.
Quelle bonne nouvelle.
Quand même, hein? C'est très hot.
Ouais, vraiment. C'est très bon pour elle et pour la place des femmes en général dans le hockey aussi.
Hein. Exact.
La citation qu'elle a dit, la citation du jour, on va dire, elle a dit « Je n'ai jamais trop pensé au genre dans mon parcours. Je voyais ça de façon non-binaire. Mm-hmm. » Puis elle en a parlé dans son point de presse aussi, son approche non-binaire. Puis j'ai vraiment aimé ça aussi. Elle n'a jamais voulu être reconnue comme étant une femme dans le milieu de hockey. Mm-hmm. Elle veut être une travaillante. Mm-hmm. Puis vraiment qualifiée aussi avec toute l'expérience qu'elle a avec elle. Mais c'est ça, elle a fait son approche aussi. Puis durant les négociations avec Jim Rutherford, il n'a jamais été question de son sexe ou du genre. Donc je crois que ça a été la raison on va en parler encore un peu plus. Ouais. Il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'elle a abouti à Vancouver, mais c'est une des raisons, je pense.
Okay. Super, c'est très hot. Après, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont eu des postes importants dans des organisations de la Ligue nationale. Là. Il y a justement eu peut-être aussi Angela Gorgon avec les Mighty Ducks.
En plein ça, 96-97.
Dans des postes de gestion, comme le Canadien vient d'engager Chantal Maccabée aux communications, comme VP au com, un peu plus tôt en décembre, quoi, déjà. Fait un bail. Mais.
Ouais, puis il y en a quelques autres récentes aussi, là. Camille Granato comme recruteuse avec le Kraken.
Ouais.
Le Kraken aussi engagé Alex Mandricki qui s'occupe des statistiques avancées. Donc, on voit que le Kraken qui est une nouvelle équipe, nouvelle mentalité peut-être plus jeune, plus ouverte, là. On le voit ici.
C'est clair. Au niveau de l'arbitrage aussi, Elisabeth Manta qui fait ses preuves, là, qui va probablement aller justement aux Jeux Olympiques ou je sais pas trop, là, mais elle commence à arbitrer des matchs à la fois dans la JMQ, dans la Ligue américaine. Donc, au niveau professionnel, elle fait déjà ses marques, donc c'est de bon augure.
On monte les échelons assez rapidement.
On est tanné de la masculinité toxique au hockey. Ça s'en vient tranquillement, là, ça se dissipe petit à petit. Il y a encore du chemin à faire.
Yes, sans plaisir.
Il était temps.
Même dans le point de presse, on voyait les journalistes poser des questions encore par rapport à ça aussi. Sinon, elle a trouvé... Elle laisse derrière elle aussi quand même un poste important. On sait que Émilie Castonguay était agente de joueurs, dont celle du joueur Alexis Lafrenière, donc le numéro 1 avec des Rangers de New York. Mm-hmm. Donc, c'est avec Momentum Hockey.
OK, oui, je connais l'agence, c'est ça, exact.
Puis il y a d'autres joueurs aussi qu'on connaît bien, Cédric Paquette du Canadien, Antoine Roussel aussi, et toute leur famille aussi avec qui elle avait beaucoup de contact. Pour devenir la nouvelle adjointe au directeur général des Canucks, elle a dû faire un petit deuil avant. Ça n'a pas été facile à dire, mais on s'entend que quand tu compares les opportunités, et même les joueurs étaient super contents pour elle, là. C'est sûr que déçu de la voir partir, mais c'est une tellement bonne occasion pour elle et pour les femmes justement dans le monde du sport.
Oui, c'est une promotion au final quand même.
Oui, c'est ça, en plus, tu craches pas là-dessus. Là.
Et c'est aussi une nouvelle tendance qui prend de plus en plus d'ampleur de voir des gens... orchestrants et travailleuses du monde des contrats du hockey, exemple, du côté des agents et agentes de joueurs qui obtiennent des postes dans des organisations de la Ligue nationale. On pense à Kent Hughes, le nouveau directeur général du Canadien, qui a aussi été agent de joueurs. En fait, même directeur de son agence, de Patrick Bergeron, Christopher Le Temps, entre autres. Donc, tu sais,
c'est une nouvelle tendance qui voit le jour.
Un petit buzz, quoi.
Un petit buzz. En plein ça.
Yes.
Mais
bravo, Émilie Colin.
Mais c'est, tu sais, il n'y a pas de DG en ce moment avec les Canucks de Vancouver.
Ouais, c'est ça, ils sont encore en recherche.
Actuellement, j'ai l'impression que le directeur a un peu un mot à dire sur la nomination de son adjoint. Mm-hmm. Donc là, les choses ont comme été faites à l'envers. Mais bon, on va voir. Ils ont probablement déjà un plan en tête. Là, cette semaine, on devrait savoir ça va être qui leur...
Ouais, parce que Jim Rutherford est là par intérim. Directeur général par intérim, alors que c'est le président hockey, si on veut. Là. Président des opérations hockey. Que, ben, en fait, ce poste-là avait été délaissé par Jim Beaning. En fait, Jim Beaning avait été limogé par les Canucks. Là. On se rappellera de ça. Mais oui, et j'ai hâte de voir...
Avec grande joie.
Oui, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir comment Emily pourra travailler avec Bruce Boudreau, qui est l'entraîneur chef. C'est quand même une tête forte, là aussi. C'est
pas, tu sais, son millième match aussi hier. Mm-hmm. Et on a vu la vidéo. Tu sais, il y a toujours des petits des messages des anciens joueurs qui ont joué avec lui ou pour qui il a entraîné. Et on voyait Boudreau tout triste. C'était quand même cute. Mais c'est quand même un grand entraîneur. Puis on va voir le travail qu'ils vont faire. Tout est nouveau quand même dans cette équipe-là. Fait qu'on va voir dans quelle direction ils vont aller. Justement, comme elle a dit à Emily, ils ont quand même une vision claire, je crois, de ce qu'ils veulent faire. Là, okay. Une bonne identité et tout. Aussi, est-ce qu'il a rendu la décision plus facile à l'année historique avec la ville de Rockford en raison de la mort de sa sœur, en fait, Valérie, à 25 ans, est morte d'une erreur médicale pendant une rhinoplastie, donc une chirurgie au nez, en 2008. Puis ses dernières conversations justement avec elle tournaient beaucoup autour du fait qu'elle serait potentiellement directrice générale ou qu'elle dirigerait l'équipe des Canucks de Vancouver un jour. Donc c'est ça, ça l'a rendu davantage émotive à ce moment-là. Donc le choix, on s'entend, après était quand même assez évident, là, les astres s'alignaient pour elle. On dirait que c'était le destin là, pour Émilie Castonguay de se retrouver avec les Canucks. C'est sûr que c'est un poste d'adjointe en ce moment. Mais ça reste quand même une belle promotion, comme tu disais.
Oui, c'est une porte d'entrée, quoi. On pense justement...
Et pour d'autres aussi.
C'est ça, exactement. Et pour d'autres, tu sais, Marc Bergevin est passé par là avec les Blackhawks de Chicago aussi. À l'époque, c'était l'adjoint à Stan Bowman. Donc, tu sais, je pense que c'est justement le poste logique pour éventuellement faire ses preuves, faire ses armes pour diriger un club à part entière, tu sais.
C'est vrai.
Donc, voilà.
À l'hôtel, et aussi les rumeurs avec le Canadien de Montréal... On la croyait souvent sur la liste des potentiels candidats pour le Canadien de Montréal, mais finalement, elle a affirmé avoir eu aucune discussion avec l'équipe.
Ouais, il y en avait tellement de noms dans cette liste-là.
Ça finissait plus.
C'est d'un ridicule fou, là.
Donc, elle a dû se retrouver là à m'emmener. Mais non, c'est ça, il n'y a pas eu de discussion formelle.
J'ai bien aimé les gags comme quoi Dr. Arruda pouvait peut-être postuler pour la job de directeur général du Canadien. C'était quand même fort. Mais bref.
Ouais, le spectre est large. Il y avait beaucoup de monde retenu.
C'était un peu niaiseux tout ça, Jonathan. Hein? Yes. Mais en tout cas, les Canucks, gros job à faire là-bas, là, parce que le noyau bas de l'aile, quand même, là, ça se replace un petit peu sous la tutelle de Bruce Boudreau, mais les Bo Horvat, Brock Besser, Elias Pettersson, ça se traînait les pieds depuis le début de l'année. La signature de Oliver Ekman-Larsson qui a fait patate, littéralement, depuis aussi le début de la saison. Il y a Quinn Hughes qui est un bon défenseur offensif, mais sinon, tu sais.
C'est pas terminé pour les
Canucks.
C'est pas
Jojo, là. Ils ont de la job.
C'est sûr, mais comparé au Canadien de Montréal, je trouve que le portrait est déjà plus joyeux.
On en parlera plus tard de ça. Écoute, Joe, il y a eu plein de matchs récents aussi. Puis là, on s'entend, là, dans le temps des fêtes, avec aussi le championnat junior qui a été annulé, ça c'était désolant, c'était vraiment plate. Mais,
grosse déception, oui.
Ouais, ça c'était vraiment décevant, mais il y a tellement eu de matchs reportés dans les dernières semaines, mois, des joueurs qui ont été sur le protocole, les équipes canadiennes qui ont eu plein de matchs annulés, voire reportés. Hey, c'était le bordel de suivre, ne serait-ce qu'un pool de hockey, c'était complètement...
Ouais, je suis pratiquement content de ne pas en avoir cette année. Ça a l'air quelque chose. T'es pratiquement le trois quarts des joueurs d'un pool se retrouvent sur la liste du COVID. Ouais. C'est pas payant.
Là, les taxi squads sont de retour, donc les équipes réserves. On fait appel à des jeunes joueurs nébuleux, des prospects douteux, on sait pas leur provenance. C'est quand même le bordel, mais là, ça se place un petit peu. Donc, on pense justement aux Canadiens qui a beaucoup moins de joueurs maintenant sur le protocole. Il y a Cole Caulfield puis Joel Armia, je pense qu'ils sont encore. Plein de joueurs de blessés aussi, là, mais...
Ouais, il y a beaucoup de blessés, là, pas en raison de la COVID. Là.
Non, nécessairement, mais en tout cas... D'ailleurs, on peut faire l'état des forces puis l'état des matchs récents. Hier soir, c'était quand même une soirée occupée dans le monde du hockey. Outre le Canadien qui en a mangé une sincère. Une bonne raclée là, contre le Wild du Minnesota. Il y a aussi, on peut se consoler de ce côté-là pour les fans du Canadien. Les Blues de Saint-Louis, qui est une des forces dans la Ligue nationale cette année, un des clubs les plus complets avec beaucoup de profondeur, qui se sont fait laver, lessiver par les Flames de Calgary aussi, 7-1. Là-dedans, Johnny Gaudreau a 4 points, 3 buts de passe, ou 1 but 3 passes.
Ouais, grosse surprise ce match-là à sens unique, mais très surprenant. Justement, on parlait de Justin Falk, justement, qui se réjouissait pas de venir jouer au Canada. l'équipe a clapback un peu sur Twitter.
Ouais.
On s'entend qu'une performance de même, tu prends l'occasion, là, prends l'appareil. Mais ouais, Justin Falk, en raison des mesures sanitaires au Canada, donc on est mauvais d'avoir toutes non, mais on s'entend, pas vrai. Mais il se désole, puis beaucoup de joueurs aussi américains, là, je l'ai remarqué, là, qui aiment pas bien venir jouer au Canada. Mais bon, hein, il faut ce qu'il faut.
On se rappellera de
ça. Faut se responsabiliser quand on vient jouer ici.
Ben exact, on est simplement peut-être moins négligent que certains États américains. Hein.
Ben.
Je dis ça, je dis rien. Mais oui, Justin Falk et son club en ont pris pour leur rhume hier. Défaite cuisante. Sinon, ben, tu sais, il y a eu d'autres joueurs aussi au début de l'année qui ont refusé de se faire vacciner pour justement ne pas aller au Canada et de jouer les matchs chez leurs voisins du Nord. Tyler Bertuzzi, entre autres, avec les Red Wings de Détroit, je sais pas si tu te souviens, avait refusé de se faire vacciner. Là, je pense qu'il l'est maintenant, en tout cas, j'ose croire. Mais ouais. C'est quand même touché. Sinon, le Colorado a battu les Blackhawks 2-0. Colorado qui sont sur une lancée phénoménale. Je pense pas que personne va les arrêter cette année. En tout cas, c'est un club encore très jeune. Reste à voir ce qu'ils vont faire en séries éliminatoires.
Ça va jouer en série encore.
Ce club-là...
Je suis vraiment pas inquiet pour leur fin de saison, mais non. En séries éliminatoires, on sait ça se joue là, en fait.
Ouais.
J'ai hâte de voir comment Benoît va jouer ses cartes rendues là.
Ouais, j'ai hâte de voir ça aussi.
Les Rangers de New York, savais-tu que Gérard Gallin est rendu leur...
Ouais, ben oui.
J'ai pas vu ça passer, moi. J'ai vu ça hier. Ma mâchoire a décroché. J'ai fait « Quoi? T'es rendu là, toi? » Il est rendu à combien d'équipes?
Ça fait plusieurs, là.
Je suis content pour lui, là. Lui qui a été délaissé sur le bord du chemin à partir en taxi de la Caroline.
Oui, avec pas de classe.
Floride,
hein?
Là. Non, c'est dégueulasse, ça. Puis pour un entraîneur d'une autant... qui mérite autant de respect que lui, là, je veux dire.
Ouais, clairement. C'était un peu...
On l'avait vu par la suite à Vegas, si je me trompe pas.
Il avait coaché à Vegas.
Fait un petit break.
C'est ça, là, maintenant, il est de retour avec les Rangers. Les Rangers qui vont relativement bien, là, tu me corrigeras si je me trompe, Marc. Ben, ils sont premiers de leur division dans la métropolitaine. Ouais, c'est ça, exact. Ils ont 28 victoires, 11 défaites. Ça va quand même plutôt bien pour les Rangers. Les Rangers qui jouaient justement hier aussi ont battu les Kings 3-2.
Ben, ils sont pratiquement premiers de la ligue.
Ben, c'est
ça. Ils sont comme deuxième de la ligue.
Si on veut, là, il y a les deux clubs floridiens, hein, les Panthers puis le Lightning qui sont à 61 points. Sinon, le Colorado est à 61 aussi, mais effectivement, bon troisième.
Est-ce qu'on s'en va au bas du classement?
Bas du classement? Ben,
peut pas aller plus bas, là.
Effectivement. Et ben, je me réjouis en étant un. Fan sporadique du Canadien, si on veut. Il faut que le Canadien gagne le moins de matchs possible. Je le répète à chaque émission presque d'ici la fin de l'année. Même si c'est pas la cuvée du siècle puis que Shane Wright c'est pas un sauveur nécessairement. Il a marqué un but d'ailleurs phénoménal entre les jambes. Il est en arrière du filet, fait une passe devant le filet, mais calculé pour déjouer le gardien sur son patin quand il se revirait dans un déplacement à la terre. D'une beauté, là. Tu revois ça, Jonathan. Sacré beau but. Non, mais en tout cas, le Canadien doit tanker, comme on dit en bon français, s'écrouler, s'effondrer et viser le bas du classement.
Ouais, mais là,
Et c'est ce qu'ils font.
Ils font à merveille. À merveille, ça, je te l'enlève.
Par contre, la semaine passée, ils ont récolté un point dans leurs trois matchs. Ça, c'était moins bon. La défaite en prolongation contre le Colorado.
Il y a une certaine dignité, moi, je crois, en ce moment, qui manque aux Canadiens. Quand on regarde l'affiche, ils ont 8 victoires. On peut le compter sur nos deux mains, là. 8 victoires.
En 40 games.
Ouais, c'est assez désolant. 23 points sont au bas du classement pour une équipe qui a fait la finale l'an passé. Ça, on le répétera à jamais assez. Ils ont fait la finale à la Coupe Stanley l'an passé. On voit que le retour aux divisions traditionnelles,
ben oui,
ça ramène à la réalité assez vite. Parce que quand on regarde toutes les équipes canadiennes, sont beaucoup... À part Ottawa, mettons.
T'sais, Vancouver non plus, ça va pas full bien. Edmonton, même là, ils sont sur une déconfiture, dégringolade totale.
Ça va mal, Connor McDavid aussi.
Ouais. Le meilleur club canadien dans la Ligue en ce moment, c'est les Flames. Avec 19 victoires sur 37 parties.
Donc, peu importe le scénario, le Canada serait pas en meilleur état.
Non, vraiment pas, vraiment pas. Donc, sinon, dans les bas-fonds, là, ils rivalisent avec les Coyotes de l'Arizona qui, hey, tu sais, on s'entend. Les Coyotes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait les séries. Les Coyotes ont liquidé leur club, littéralement, là, d'année en année. Tu sais, il y a Clayton Keller qui est seul au monde avec Phil Kessel qui traîne de la patte puis qui fait un one-timer de temps en temps, mais qui back pas, il est jamais dans sa zone. C'est fou quand même, là. Les Coyotes ont 24 points, Canadiens ont 23. Sinon, ben le Kraken est à... Le Kraken
leur nouveau
est
logo n'aura pas porté chance.
Ouais, ben le retour...
Moi, j'étais pas d'accord avec ce changement de... Ouais, en fait, un retour aux sources...
Ouais, la nostalgie, moi, je le trouve vraiment cool, ce logo-là. Là. En tout cas... sinon, le Kraken est à 30 points. Ça va vraiment pas bien, mais... C'est pas si pire.
Bon, on dirait que ça représente lorsqu'on mieux la réalité d'une première année d'expansion. Ouais. Pour une équipe d'expansion, en fait, contrairement à la première année des Golden Knights, ouais, je veux dire, c'est du jamais vu. Puis je pense qu'on ne reverra plus jamais ça de notre vécu, là, sans faire ça.
Après, la stratégie était complètement différente, celle de George McPhee avec les Golden Knights. Il voulait gagner dès la première année, tu sais. Il a fait plusieurs échanges aussi, puis il a accommodé certains clubs lorsqu'ils ont, comme par exemple le Wild qui avait dû protéger Matt Dumba puis Jonas Brodin, les deux défenseurs. Pour ça, ils ont dû donner un choix de première ronde et les Golden Knights ont choisi Alex Tuck. Ils ont fait plein de concessions, ouais, aussi pour accommoder certains clubs, mais aussi à leur avantage, les Jonathan Marchessault, en tout cas chez Theodore avec les Ducks qui avaient été repêchés cette année-là. Bref, Marc-André Fleury aussi.
Ouais, c'est ça, devant la cage, ça sont construits quelque chose de...
Mais ouais.
Donc,
puis la stratégie de Ron Francis avec le Kraken était à l'opposé, à l'ouest de ça. On a levé le nez devant des... Quoi? Vladimir Tarasenko, qui a une saison phénoménale, tu sais. Il y avait plein de joueurs excellents à repêcher, mais non, on l'a pas fait.
Il aller à la traditionnelle.
Ouais, à la traditionnelle.
Progressif.
Puis de bâtir avec le repêchage et non, ouais, par les transactions et les signatures. En donc, voilà.
Mais on voit que le modèle quand même de McPhee peut marcher. Là, je veux dire, du moins à court terme.
Ah, full!
T'sais, du moins pour une ou deux saisons. Comme là, tu sais, ils se portent quand même bien. Là. En plus, c'est ça l'affaire. Ils sont encore premiers de division, la division Pacifique. Ils sont,
ouais,
sont encore premiers. Ils vont super bien. Mais ils ont réussi à entretenir. On s'entend que c'est une équipe à grand budget aussi.
Ben oui, je crois. De l'échange de Jack Eichel aussi cette année, tu sais, qui va revenir en février. Jack Eichel, ils ont été chercher Max Pacioretty, ils ont été chercher Mark Stone. Donc, ils ont fait des pieds et des mains pour améliorer leur club. Alex Pietrangelo aussi, comme signature aux agents libres il y a deux étés, tu sais.
Ouais, je m'attendais plus à un reset, tu sais, comme après la conquête. Ben, ils l'ont pas conquis, mais non, presque conquête.
Ouais.
Puis, finalement, ils ont quand même resté dans les forces de la ligue.
Ouais.
Puis je pense que ça va être une. En fait, ils ont instauré ça comme notoriété un peu. Là, ça va être vraiment une réputation d'une équipe qu'on va voir toujours comme féroce. Là, t'sais. Puis même dans les moments que ça va le moins bien, ça va être une équipe qui va s'attendre à avoir tout le temps des meilleurs résultats. Comment se fait avec le Canadien, même s'ils souhaitent le contraire, on s'attend quand même à un minimum de
performance.
Ouais.
Ben. Comment dire? Est-ce qu'on doit s'attendre à un minimum de performance? T'sais, justement, l'année passée, c'était... Comment dire? C'était une année de licorne. Là. C'était une saison utopique. Là. Ça arrivera pas. C'était pas censé arriver.
Non, c'est ça.
On s'entend. Puis le Canadien n'a jamais fait de reconstruction totale. Puis c'est là le problème. T'sais. On n'a jamais fait de reset, justement. On a toujours... Pallier, patcher, repêcher au milieu de peloton. On a toujours voulu faire les séries par la peau des fesses.
On n'a jamais osé s'engager à 100% dans une ou l'autre direction.
Reconstruction, puis aller chercher plein de choix de première ronde. On l'a jamais fait ça. Le Canadien a jamais fait ça. Donc, il est là le problème, tu sais. Les Pingouins de Pittsburgh l'ont fait, là. Ils ont eu des années de misère, là, avant de repêcher Crosby, Malkin, etc., tu sais.
Pareil pour les... c'est payant, là.
Pareil pour les Blackhawks à l'époque, avec les Tays Kane, Duncan Keith, Seabrook, tu sais. Je veux dire, ça marche comme ça, là, tu sais.
C'est vrai.
Donc, voilà.
Mais Canadien, pas fini.
Non, on n'a pas fini parce qu'ils en ont mangé une Christie de Saint-Cyr hier, 8-2 contre les Wild.
Ouais,
puis on pensait que ça pouvait bien aller. Là. On voyait comme un regain de vie alors que Tyler Toffoli, entre autres, est revenu.
Ben, pour les quelques premières minutes du match, là, j'ai trouvé ça drôle quand Dominique Ducharme dit qu'il avait aimé sa première période. Non. Ouais. Il n'y avait rien à aimer. Là. Je veux dire, à la seconde, que oui, on a ouvert la marque, mais... Après 5 minutes, après ça a été terminé. La deuxième période a été pire. Les deux buts en 22 secondes du Wild a brisé les...
Kirill Kaprizov.
Ouais, entre autres. Il y a Devos qui a scoré son premier de la Ligue nationale.
Ouais, ouais. Connor DeWeer.
Bravo à lui. Mais sinon, il y avait rien qui allait autant de la côté de la défensive que l'offensive. Il n'y a rien qui a été généré. Devant le but aussi, on peut pas faire les arrêts-clés, donc ça permet pas à l'équipe de pouvoir compétitionner.
Mais non.
On s'entend quand tu es à 3... on était à 4-1, je pense, après... rendu à la moitié du match. Donc c'est sûr que quand ton équipe est pas vraiment dans le portrait. J'ai pas trouvé Dominique Ducharme très réactif, très...
Ouais.
Il a changé Kaden Primo, je crois, après 5 buts.
Ouais.
Il a voulu le faire terminer la période, mais ça a provoqué un autre virement, un autre
non,
but.
Non, puis après ça, McNiven en a donné 3. Là, c'est quand même...
pour ses débuts, en plus. C'est ses débuts, je crois.
McNiven, non, il a déjà joué des matchs. Là.
OK.
Ouais, bon. Je pense que oui.
Il est dans ses débuts de carrière,
ouais,
du
oui,
moins.
Il a pas...
Puis ça, c'est pas une belle situation pour lui.
Pas du tout.
Autant pour tous les jeunes joueurs, c'est beaucoup de pression mise sur les gardiens qui sont jeunes. Là, on est rendu au gardien numéro 4 et 5 de,
ouais, c'est ça, de l'organisation. Là,
c'est ça, fait qu'on est loin.
Non, exact.
Et c'est ça fait beaucoup de pression pour une équipe qui a une aussi grande réputation, qui a une si grande pression des partisans, de l'équipe à l'interne aussi.
Mm-hmm.
Et... ben, d'abord, qu'il y a une réputation aussi d'avoir un bon gardien. Là. Quand tu as Carey Price qui garde l'équipe habituellement, ouais, c'est sûr que c'est dur de. Les comparatifs
ouais, c'est divergent fou, hein,
un peu.
C'est
là,
fou.
Avec Jake Allen aussi qui est blessé pendant encore 8 semaines, blessure au bas du corps. Ça arrivé récemment, là, je crois, contre
ouais,
Boston.
Ouais, ouais. Ouais, parce que
pas grand bonne nouvelle. Là.
Non, parce que techniquement, sur papier, en santé, t'as le meilleur tandem de gardiens de la Ligue nationale avec Price et Allen, ou presque. Là, mais non, cette année, ce n'est pas le cas. Tout s'effondre. Tout non, s'effondre, Jonathan. Du côté du Wild, par contre, ça va plutôt bien. Hein? 25 victoires, 10 défaites, 3 défaites en prolongation. C'est un club que j'aime bien cette année, le Wild, mais même l'an passé aussi, le Kirill Kaprizov, c'est un MVP cette année dans la Ligue, là, de loin. Il a été d'ailleurs blessé un peu là, il y a quelques semaines. Kaprizov, ça paraissait en motadis sur les performances d'un peu tout le monde chez le Wild. Là, c'est vraiment un dynamo, là, c'est une dynamite ce gars-là. C'est une bougie d'allumage, comme il y en a très peu dans la Ligue. C'est un peu le même genre d'impact. Puis encore là, même, tu sais... lorsque Artemi Panarin est arrivé dans la ligue, il y avait Patrick Kane puis Jonathan Toews avec lui puis des Brendan Saad, etc., Patrick Sharp, tu sais. C'était pas le cas, là. Je veux dire, le Wild a un club assez jeune, là. Il y a plein de jeunes qui ont pas fait leur preuve encore. Puis t'as Kaprizov qui distribue des caviars à tout le monde puis qui marque des buts d'une beauté phénoménale. Ça va criffement bien.
Ouais, puis c'est une bonne place, je trouve, pour lui, pour évoluer, justement, puis pour se développer davantage.
Full.
Là.
Full.
Là, il prend sa place dans l'équipe, comme ça se peut ouais, pas. Puis c'est ça qu'on veut chez le Wild. Là. C'est vrai que sa présence paraît. Là.
Ben oui.
Si tu l'enlèves pour une dizaine
non,
de matchs,
ça paraît,
on va peut-être ouais, voir une séquence un peu plus triste chez le Wild. Mais c'est ça, il se tient très bien. Devant le but aussi, ça va quand même bien aussi. C'est,
ouais, c'est Cam Talbot puis Kaapo Kakkonen.
Ouais, hier donc, aussi, ils ont joué les deux.
Ils ont alterné, ouais. Ben Kakkonen était sur une bonne séquence là, pour donner un petit répit. Ils ont décidé d'alterner. Cam Talbot a commencé le match. C'est un club aussi très physique, là, le Wild. Là, Marcus Foligno, Jordan Greenway, c'est des estifies de gros bonhommes. Ils ont plein de talents aussi, des défenseurs mobiles comme Matt Dumba, Jonas Brodin aussi, qui a une bonne saison offensive. Alex Golikowski, qui a comme 4 vies, ce gars-là, 4-5 vies. Là. Il est à 24 mentions d'assistance cette année. Dans les très jeunes aussi, là, ils ont Matt Boldy, qui a fait ses débuts il y a quelques semaines. Là, à surveiller, ce gars-là, vous allez le prendre dans vos poules éventuellement. Grand gaillard américain, 6'1". Fin marqueur, avec des gars comme Kevin Fiala aussi sur son trio, avec Joel Eriksson-Ek aussi, le centre suédois qui est de retour.
Bonne brochette
de joueurs. Bon petit club, le Wild. Bon petit club. Ça a fait du bien là, de se libérer de Zach Parise puis des Ryan Suter, là, la vieille,
ouais,
la vieille garde.
Ouais,
Zuccarello est encore là, par contre. Non, mais oui, c'est ça, vrai. Mais... Puis j'ai jamais compris... le succès de ce gars-là. Il patine pas si vite. Il a comme un flair. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Je pense que c'est un peu ça. Là. Mais en tout cas, bon petit club, le Wild, à surveiller puis écouter des matchs. Ils sont quand même excitants à voir aller.
Ouais, sont au top du wild card aussi. Si on regarde pour la prochaine mi-saison qui arrive, ça va se battre vraiment quelques équipes, là, c'est 44 points, puis le Wild est au-dessus avec 53. Donc, il y a quand même une bonne marge de manœuvre entre les deux.
Ouais.
S'ils réussissent à rester à bien jouer de jour en jour, d'après moi, ils vont pouvoir se qualifier presque facilement. Là. Mais ça va être plus les équipes, on parle des Flames, des Stars, des Sharks, des équipes que c'est un peu moins clair en ce moment où ils se dirigent. Là, même les Jets, c'est up and down.
Ouais, c'est pas une grosse saison pour les Jets, non, effectivement.
Mais ils sont tous encore dans le portrait, là, du moins.
Ouais, puis ils ont des matchs à rattraper aussi, quand même, là, quelques matchs à reprendre.
Sinon, le Canadien, pour faire les séries, je pense qu'il nous faudrait. en tout cas, il faudrait pas en perdre plus que 5. Quelque chose de même. Donc, c'est impossible. Donc, le Canadien est déjà éliminé pratiquement des séries éliminatoires.
Oui.
Puis là, on regarde justement pour la suite. Moi, je pense que le mot reconstruction va être à mettre à l'honneur. Là, mais mettre devant. Sinon, on parlait, je voulais parler de la situation de l'entraîneur, en fait, pas d'elle. On a fait quand même un bon ménage dernièrement des entraîneurs.
Ouais.
Mais je suis toujours pas convaincu de Dominique Ducharme. Toujours pas. Je sais pas si c'est encore ses points de presse qui me grissent les dents, mais comme hier encore, je l'écoutais parler après le match, puis j'étais un pas d'accord avec son rendement du match. Mm-hmm. Je veux dire, on a vu les deux le même match. Là, il était plus proche que moi, là. T'sais, il était proche. Puis il y a des bouts, je l'ai écouté à la radio. Là, t'sais, il l'a vu proche en esti. Puis, you know.
Puis, ne te censure pas, Jonathan.
Ça a été vraiment désolant de voir qu'il n'était pas plus. T'sais, je veux dire, le sport à un certain niveau, c'est aussi un jeu de caractère. Il faut que tu ailles chercher quelque chose. Puis, moi, avec mes équipes, ça a toujours été ça. Il faut qu'il y ait une étincelle. Il faut que les joueurs s'aiment. Les joueurs, faut qu'il y ait de quoi. Puis en ce moment, il n'y a rien. Puis je pense pas que c'est l'homme de la situation.
Pas du tout.
Puis il n'y en a pas dans le vestiaire non plus. Non. Prochainement, il va falloir nommer un capitaine aussi.
Ouais.
Soit par intérim, peut-être. Ou parce qu'on sait que chez Weber, ce ne sera pas de retour, probablement.
Non, c'est ça. Non. Et Jonathan Drouin l'a échappé en point de presse là, un peu plus tôt en cette saison que Weber allait pas revenir.
Ouais.
On le sait tout, là, c'est comme.
We know.
Mais oui, ben tu sais, après il y a plein
on
de rumeurs aussi là, il y a plein de rumeurs. Je pense que le capitaine réellement dans ce vestiaire là, c'est Brendan Gallagher.
Juste au moment où qu'un vrai capitaine
c'est ça,
va venir
parce...
dans l'équipe.
Peut-être bien que Gallagher va être échangé aussi là. On parlait des Kings de Los Angeles qui seraient intéressés par ses services, surtout que Dustin Brown risque de partir à l'été. Je sais pas, pour remplacer Dustin Brown. Oh, du coup, il y a beaucoup de
noms avant Gallagher.
Rumeurs de transactions, le Ben Chiarot aussi entre autres,
ouais,
qui
ben
risque de partir.
Beaucoup d'équipes sont intéressées par.
Ouais,
ça,
je pense qu'on peut aller chercher au moins un choix de deuxième ronde puis un espoir intéressant.
Ouais,
en tout cas, intriguant.
Faut être intelligent.
Intriguant.
Arthur Lekkonen aussi beaucoup.
Ça, c'est ce qu'on dit. Moi, je peux pas croire que des clubs.
Ben, quand on dit que Jeff Petrie, il part en demande aussi en ce moment.
Ouais, ben, je peux comprendre Jeff, là. On s'entend qu'il y avait une grosse saison l'an passé. Après, sa blessure au poignet, puis tout ça, je pense que ça l'a affecté énormément. Je suis pas sûr qu'il est à 100% encore. Je pense qu'il le sera jamais. Son niveau de jeu de l'an passé, c'était encore là une utopie. Je pense que c'est pas représentatif de son plein potentiel.
Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui disent dans leur carrière avoir eu quelques années boiteuses comme ça, mais là, tu le vois dans sa façon de jouer, ça reviendra pas.
Non, je pense que ça reviendra pas non plus.
Du moins pas avec le Canadien de Montréal.
Peut-être qu'effectivement, un renouveau, ben, un changement d'air, ça pourrait faire du bien. Après, J'ai l'impression que physiquement, il est pas à point, mais une autre affaire. Je suis pas son entraîneur physique. Là. J'ai hâte de suivre qu'on fasse une émission aussi sur la période des transactions puis la date limite. Oui. Ça va être trippant. Il y a le match des étoiles aussi qui s'en vient.
Oui, c'est ça, la semaine prochaine. On a le Super Bowl aussi à couvrir. Ouais. On va pouvoir faire puis le match des étoiles que je veux parler.
Ça, ça fait beaucoup de choses. PA était censé nous parler de foot américain aussi. On en parlera mardi prochain.
Ah,
yes. Jonathan, je te propose une légère mini Rikiki pause publicitaire.
Allons-y.
Après ça, on va écouter Beat Sexu et Passion Donjon sur les ondes de Chis 94 puis on se parle plus tard de foot et de Tunis, quoi. Yeah.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, Québec.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux puis des kiwis des nerds.
Et oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des Kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
OK, attention. 1, 2, 3...
Passion.
Et vous écoutez toujours Conduite Antisportive, édition du mardi 25 janvier. C'était Beat Sexu et Passion Donjon sur les ondes de Cheese 94.3. Je suis Gabriel Tremblay en compagnie de Jonathan Paradis. Et avant de se transporter en Afrique et en Océanie pour parler respectivement de ballon rond et de tennis, jasons un peu de baseball parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles sur le projet de ville partagée entre les Rays et Montréal.
On a mis fin à un long rêve qui s'éternisait.
Ouais.
Mais là, terminé, on tire la plug. Donc, le projet, on parle du projet de baseball des villes sœurs, Montréal et Tampa Bay. Yeah. Donc, c'est terminé. On a mis. C'est un projet qui est tombé à l'eau. C'est un projet qui perdure depuis deux ans et sept mois quand même. Mm-hmm. Donc, c'est une. Quand même une déception là, pour l'équipe à Montréal, Bronfman ouais. Et son groupe. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui mettait corps et âme dans ce projet-là dernièrement.
Ben oui.
Et finalement, il n'y aura pas eu de. Puis moi, je sens que ça fait longtemps qu'on le sait qu'il n'y a pas de. On s'entend que c'est un projet un peu farfelu. Là. Dans le sens que c'est un projet qui n'est jamais arrivé dans le passé, dans aucune équipe de sport. C'est un peu implausible de voir ça, autant du point de vue des joueurs. Les joueurs ne se voyaient pas vraiment déménager en mi-saison ou avoir deux domiciles.
Ouais, c'est complexe.
Non, c'est très complexe. Puis c'était attiré un peu par les cheveux.
T'as raison, l'idée était fantaisiste.
Ouais.
Puis la réalisation aussi, tu sais. Effectivement, écoute, aussi d'une ville américaine avec une ville québécoise, en Floride et au Québec. Ça, en tout cas, il y a plusieurs points d'interrogation. Oui, c'est dans l'Est, mais c'est quand même relativement très loin. Là,
on parle un peu de régler le problème d'attendance.
D'assistance.
D'assistance, ouais.
Attendance!
Attendance.
Attention, please! We don't have any assistance! Attendance! In the stadium now!
on sait qu'à Tampa Bay, c'est un problème récurrent. Là. Je me suis fait piquer là-dessus un peu.
À chaque émission, quand on parle de...
Dans le passé aussi, là, par mes pères et tout ça. Mais c'est un problème qui perdure encore, donc on pensait peut-être ramener du monde à Montréal.
Ouais.
Malgré qu'on était un peu confiant, là, que, un peu, tu sais, je veux dire, on n'a pas eu les expos depuis 2004, si je me trompe pas.
Effectivement.
Donc, on sait pas vraiment à comment la population aurait réagi une équipe si on serait vraiment déplacé pour la totalité des matchs. On s'entend que c'est, ben là, c'est la moitié des matchs à domicile, donc c'est quand même beaucoup. Non, c'est pas plausible vraiment. Puis,
on parle de quoi? Presque 40 matchs et plus, là?
Au-dessus de 40 matchs. Là, on aurait comme splitté ça avec la ville de Tampa Bay aussi. Mais là, on va s'attarder sur le projet d'un nouveau stade dans la région de Tampa Bay. Donc, parce que là, le contrat va jusqu'en 2027 avec le Tropicana Field, qui est un super beau stade en plus. Moi, je l'adore. C'est le premier stade que j'ai fait. Là. La piqûre, comme on dit, hein? La piqûre, quoi.
Aïe, 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 Joe,
je me suis même
beau,
piqué sur le bras pour ça. Donc, c'est ça. Tampa Bay, donc, qui cherche un nouveau stade. Encore dans la région de Tampa Bay, mais on va essayer de pas faire la même erreur puis de se rapprocher du centre-ville. Ça a été un problème des partisans là, de devoir se déplacer. Tu sais, t'as des billets de saison, puis tu dois te déplacer 45 minutes, une heure pour aller voir ton match puis revenir le soir.
Ouais.
Puis tu sais, des matchs, il y en a beaucoup par semaine.
Non,
donc c'est un peu complexe.
C'est un peu aberrant de faire un stade ou de construire un stade en périphérie là. En tout cas. Pareil pour exemple là, au hockey, les Sénateurs à Canada. Là. C'est une grosse gaffe qu'ils ont faite. En tout cas.
Bref.
Je te souhaite.
Une pensée, prière à ce projet.
Pas de prière parce que on n'est pas croyant, mais tu peux l'être si tu veux, Joe, je m'en fous. Mais en tout cas, de mon bord, fuck tout ça. Mais je te souhaite un plus grand fanbase à Tampa Bay. Peut-être que ça va venir avec un nouveau stade puis une nouvelle refonte de l'image.
Parce que clairement, c'est pas avec le succès que ça marche.
Ben non, c'est ça, c'est un des meilleurs clubs de la ligue. Puis y a pas un mot de chat.
Ils peuvent pas être plus excitants à regarder. En plus, ils ont des jeunes joueurs avec Wanda Franco puis Arozarena.
Ils sont excitants, man. C'est ridicule.
Les gens réussissent à quand même le dire et... Mais ils s'accrochent pas plus.
Non.
Ou c'est dur de lâcher les maudits Dodgers puis les maudits. Ces équipes-là qui sont. qui ont été comme l'Original Six un peu dans le hockey aussi. C'est des équipes qui...
Mais la Floride n'est pas très baseball.
C'est sûr que c'est un très bon point.
Foot américain un peu plus. Basket aussi, le Magic, tu sais, puis le Heat de Miami. Il y a plus d'engouement autour du basket et du foot.
Tu sais, les nouvelles générations plus jeunes sont un peu moins en clin vers le baseball, je dirais. Donc, les anciennes générations, tous ont déjà leur équipe, je dirais, ouais, forgée depuis longtemps. Là. Les Rays sont récents, là. Ils ont mon âge, là. Ils sont en 98.
C'est ça.
Puis
les Marlins sont un peu plus vieux aussi, mais c'est quand même un club jeune. Puis il n'y a pas vraiment plus d'engouement envers les Marlins. Après, ils sont vraiment pas bons. L'équipe sur le terrain est pas mal moins talentueuse. Donc, on peut plus comprendre, au final, le manque d'engouement.
Les Marlins, pour avoir été plusieurs fois, là, c'est souvent l'équipe adverse qui attire le plus de monde. Là. Même moi, j'arrivais avec mon chandail des Phillies ou des Mets pour faire chier comme ma famille. Puis j'étais comme contre. Mais finalement, je me ramassais un peu en majorité. Donc, c'est l'histoire des Marlins.
Yes. Hey, délaissons le baseball. Hey, je pense que c'est une des émissions où on parle le moins de baseball, en fait, là, historiquement. En tout cas, tant mieux, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à parler.
On l'avait nié au début de l'émission aussi.
C'est ça, on l'a nié. Il fallait qu'on en parle malgré tout. Mais oui, Joe, en ce moment, je ne sais pas si tu le suis un petit peu. Là, on a jasé un peu de tennis tantôt, mais au foot international, en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la plus grosse compétition entre pays d'Afrique. Puis il y a plein de surprises. C'est quand même assez fou de voir le développement de tout ça. Ça a fait les manchettes au début du tournoi, comme quoi les arbitres étaient vendus, ce qu'il y avait plusieurs comme tellement drôles de décisions prises par le personnel d'arbitre de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans des matchs, entre autres, impliquant l'Égypte puis le Sénégal, là, qui sont deux puissances. Là. Mais il y a plusieurs grandes surprises en ce moment, des pays qui sont très marginaux au niveau du foot, qui se feraient un parcours assez étonnant dans la compétition. Je pense à la Tunisie. La Tunisie qui accède maintenant au quart de finale, qui va affronter le Burkina Faso samedi. Les quarts de finale qui sont déjà annoncés, entre autres, il y a le Cameroun, qui est toujours une puissance, là, le Cameroun, avec à l'époque les Samuel Eto'o. Là, et il y a un joueur aussi qui a joué pour l'Impact, maintenant le CF Montréal, Ambroise Yongo, défenseur latéral, qui a joué aussi en France. Il joue pour le Cameroun. Suivez ça. C'est quand même une raison supplémentaire pour suivre un pays comme le Cameroun. Le Cameroun qui affrontera la Gambie samedi aussi. Les matchs sont à des heures un peu difficiles pour les gens qui travaillent de semaine avec des horaires de fonctionnaires. Les matchs sont souvent à 11h et 14h. Donc, les deux premiers quarts de finale qui sont annoncés. Sinon, le Sénégal a déjà sa place, qui vient de battre le Cap-Vert tout juste ce matin. Une victoire de 2-0 contre le Cap-Vert qui a écopé d'un carton rouge. Sinon, dans l'autre quart de finale, il y a le Maroc qui joue en ce moment contre le Malawi. C'est 1-1 à la 62e minute, donc il reste plus ou moins 30 minutes et des poussières avant que ce soit départagé en période de surtemps. Sinon, dans les huitièmes, là, quoi d'autre? Il y a le Mali qui joue contre la Guinée équatoriale demain à 14h. Et un des matchs les plus attendus des quarts de finale, c'est la Côte d'Ivoire contre l'Égypte. Donc, les éléphants qui affronteront Mohamed Salah et l'Égypte. Ce sera un match à suivre. En tout cas, je pense qu'une des deux équipes va se rendre en finale. Là, c'est deux puissances aussi. Avec peut-être le Sénégal, c'est un top 3 plutôt conservateur. Moi, mon cœur est du côté du Burkina Faso. Je souhaite vraiment que cette sélection-là se rende jusqu'au bout. Il y a un des joueurs, d'ailleurs, Bertrand Traoré, que je suis depuis son tout jeune âge avec Chelsea et l'Ajax d'Amsterdam. Bertrand Traoré est un ailier de 26 ans et dans la fleur de l'âge, quoi. Et il court comme le vent. C'est une vitesse sur deux pattes. Très de bon manieur de ballon. Donc, le Burkina Faso affronte la Tunisie samedi à 14h. C'est un match que je vais suivre attentivement. Puis on aura l'occasion de s'en reparler de la Coupe d'Afrique des Nations mardi prochain.
Yeah. Ou tu risques d'en parler encore tout seul, comme je tu viens de faire.
Exactement. Un monologue! Un monologue du ballon.
Un bon monologue. Non, j'aime mieux pas m'imposer quand je sais pas de quoi je parle. Surtout quand on parle de football. Mais c'est intéressant quand même, beaucoup de pays dont on n'entend pas souvent parler. Là.
Ouais, ben tu sais, cette compétition-là est aussi importante que l'euro. Là, c'est immense. Il y a plusieurs pays en liste. La qualification avant de se rendre justement à la Coupe d'Afrique des Nations est très très longue. Ça prend plusieurs années aussi. Donc voilà, tu sais, c'est aussi un rendez-vous marquant où il y a plusieurs joueurs, là. Il y a des joueurs vedettes dans chaque nation ou presque là, dans ces pays-là qui jouent en Europe, en Amérique du Sud, même du côté de ce côté-ci de l'Atlantique, là, même aux États-Unis, il y a quelques joueurs en MLS qui jouent dans la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment. Donc c'est quand même trippant à regarder, surtout qu'on n'a pas beaucoup de ballons à se mettre sous la dent au niveau de la MLS du moins. Donc c'est ça pour le topo foot. Et Jonathan, il y a aussi une des plus grandes compétitions de tennis au monde à chaque année qui se tient en janvier du côté de Melbourne en Australie. Oui. devant une tonne de spectateurs puis des chaleurs accablantes. Il fait toujours clissement très chaud en Australie en janvier. Contrairement aux matchs de la Coupe d'Afrique des Nations qui sont disputés en journée, ici sur notre fuseau horaire, c'est un peu compliqué, c'est tard le soir comme on disait, donc 22h, 23h les matchs normalement débutent. Et ce qui était le fun, jusqu'à tout récemment, jusqu'à hier soir, il y avait encore deux Canadiens en liste dans le simple masculin, Félix Auger-Aliassime qui jouera son match mercredi contre Daniil Medvedev, le russe. Donc Auger-Aliassime est 9e tête de série. C'est un match qui jouera à 3h30 crément, la nuit mercredi, donc demain. C'est très tard. En tout cas, bref, mettez-vous un cadran, couchez-vous tôt, je sais pas. Si vous voulez suivre FAA, devrais-je dire. Sinon, hier soir, Denis Shapovalov se mesurait à Rafael Nadal, espagnol. Ce fut une défaite, émotive pour Chapeau, comme on le surnomme, parce que il pensait que les arbitres étaient contre lui, que c'est corrompu.
Ouais,
T'es fâché, Denis.
Denis, il a quand même livré une bonne bataille quand même.
Hey, vraiment,
une légende.
Vraiment, surtout, ouais. Une légende, tu dis. Puis Nadal a remporté les deux premiers sets 6-3, 6-4. Shapovalov ne s'est pas laissé piler sur les pieds. Dos au mur, il a gagné les deux sets suivants, 6-4 et 6-3, pour finalement s'incliner au cinquième set ultime, 6-3 aussi. Bref, ce Chapeau, c'était quand même une bonne route là, et quand même s'est rendu en quart de finale contre Nadal, ça va, tu sais, c'est un bon parcours pour le premier tournoi de l'année, premier tournoi majeur de l'année.
Non, vraiment, puis il a joué des bonnes parties, des longues parties aussi là, des 4 heures passées. Donc ça, je pense que ça va vraiment lui servir pour le futur là, c'est des bons matchs d'expérience pour lui là.
Ouais, exact, puis visiblement il est en forme là pour jouer 5-7 contre
Nadal. Non,
c'est
ça, là, il y a quoi, il y a 21 ans.
Oui, il est encore très jeune, là, Denis. On dirait qu'il est tellement jeune, il est assez juvénile aussi dans son comportement. Toujours une tête enflée, un peu tête folle. Là, 22 ans maintenant, Denis. Okay. Donc, Félix est un peu plus jeune, je pense, il y a 20 ans. Mais oui, donc on le suit. Il était quand même 14e tête de série, Shapovalov là-dedans. Du côté des femmes, la première tête de série, c'est l'Australienne, en plus, qui joue à la maison, Barty. Pegula aussi, l'Américaine, était là. Danica Collins était là. Elle joue contre Alizé Cornet demain 19h, Collins, donc à suivre. Il n'y avait pas de Canadien en lice dans le tournoi cette année. Donc c'est ça, à suivre pour les matchs du petit Canadien, Félix Auger-Aliassime. Il y a aussi, d'ailleurs, c'est comme je le répète, demain. Ah ben ouais, c'est ça. Demain, cette nuit, en fait, à 3h30. Sinon, il y a Gaël Monfils qui s'est incliné aussi contre l'Italien Berrettini. Gaël Monfils qui a encore là, beaucoup de tennis dans les jambes pour un vieillard, disons-le, pas un vieillard au sens propre, mais pour le tennis professionnel. C'est assez fou de le voir aller, donc il s'est rendu en quart de finale lui aussi. Joueur très flamboyant, acrobatique, puis en donne toujours pour son spectacle aux partisans.
Yeah,
Gaël. Allez Gaël! C'est ça qu'on entend dans la foule. Sinon, dernière parenthèse, évidemment, on se rappellera de Peng Shui, la joueuse de tennis chinoise qui a sorti publiquement cet automne pour dénoncer un des hommes les plus influents au pays, comme quoi il l'aurait agressé il y a quelques années, forcé à avoir des relations sexuelles avec lui.
Il y a du nouveau?
Ben, Peng Shui était toujours recherché. Par contre, elle est sortie publiquement pour dire qu'elle était en sécurité. Est-ce que c'est à voir? C'était une sortie aussi sur les réseaux sociaux. On n'a pas aucune preuve qu'elle est en sécurité, qu'elle n'est pas en captivité non plus. Donc, il y a un mouvement à Melbourne qui s'appelle « Where is Peng Shui? » Tout le monde a des chandails, une espèce de gros mouvement de protestation contre le régime chinois. Le tournoi de l'Australian Open a interdit aux partisans, partisanes, de porter ce chandail-là au début du tournoi, mais ils se sont ravisés. Donc maintenant, c'est accepté de le porter. Puis, en fait, fair enough, là, c'est la moindre des choses. C'est un mouvement de contestation pour un régime totalitaire, donc je trouve ça juste normal. Après, ça joue beaucoup aussi sur les relations commerciales entre l'Australie et la Chine. Il y a une taxe supplémentaire. En tout cas, c'est pas jojo de ce bord-là. La Chine est très puissante, mettons, pour les échanges commerciaux. Puis c'est pas très cool. Hein?
Non, j'ai hâte que ce dossier soit réglé. Ça ouais. perdure. Puis on sait pas ce qui se passe avec.
Moi, tant et aussi longtemps que Peng Shui ne pourra pas jouer au tennis, je vais pas le croire. Et on la voit pas. On l'a jamais vu. Personne
non, c'est ça. C'est dur à croire.
C'est quand même fucké. Joe, est-ce que t'as aimé ton émission sur 10?
Ben, gros, on se déraque, hein, comme
ouais,
on dit.
On était rouillé un petit peu. J'espère que vous avez apprécié aussi.
Oui. Ben bon, bon 7-8.
Yeah, 7-8, c'est cool. Moi, je suis genre 6.5. Toujours entre 6 et 6.5. C'est mon maximum, 6.5 tout le temps. Yes. Hey, plus tard, sur les ondes de chez 94.3, il y aura les architectes du son à 5h30, Punk Détente à 18h30 et Trash Crowd à 20h. Donc, restez là, restez sur nos ondes. Puis on se dit à mardi prochain.
Hey, yes.
Yeah, merci Joe.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chérie.